Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG, ce qui nous a marqué cette semaine, c'est qu'il n'y a pas de secret. En fait, ce sont les grands collectifs quand même qui vont souvent faire la différence dans le sport. Regardez la Ligue des Champions. Le Real Madrid l'a appris à ses dépens. On est tous d'accord pour dire que c'est pas forcément la plus grande équipe dans la définition que l'on a du collectif. On est d'accord, les gars ?
On est d'accord.
Ok, très bien. Mais regardez un petit peu le pédigré des quatre équipes en demi-finale de Ligue des Champions. Le PSG de Luis Enrique. C'est une équipe ? On est d'accord ?
Ah oui.
Un collectif ?
Oui.
Le Bayern de Vincent Kompany. Vous êtes d'accord ?
C'est une équipe.
C'est une équipe. L'Atlético de Diego Simeone. Vous êtes tous d'accord ?
Là, pour le coup, c'est le stéréotype de l'équipe.
Et Arsenal de Mikel Arteta, qu'il a construit année après année, ouais, pour essayer d'arriver, allez, à quelque chose de cohérent. Allez, c'est peut-être, si tu veux, le moins important.
Le point commun des trois premières, c'est le coach, ouais, et ouais, pourquoi les garçons se mobilisent.
Exactement.
Autour de leur coach. C'est peut-être un peu moins vrai avec Arsenal.
Ouais, mais je précise, c'est important que Simon est fan de Tottenham. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. En fait, comment on construit, on arrive à construire finalement ce qui est le plus important. Une équipe, un collectif. Comment est-ce qu'on y arrive? Pascal, évidemment, tu as été aux commandes de plusieurs équipes. Si tu donnais une conférence, là, tiens, tu viens à Sciences Po, devant un amphithéâtre, Monsieur Duprat.
Alors, fais gaffe, on n'a pas le niveau sur
comment
le
fait et comment vous avez fait. Non mais voilà, comme toi, à partir de cette expérience, qu'est-ce que tu peux en dire de ça?
Ouais, humblement, se dire que quand on raisonne en équipe, il ne faut pas raisonner et ne penser que s'il s'agit de l'équipe, du coach, du staff, c'est un club. En fait, l'équipe. Et si par déclinaison, depuis le sommet de la pyramide jusqu'en bas, tout le monde parle le même langage, tout le monde est sur les mêmes positions, alors vous pouvez être certain, c'est le meilleur moyen en tout cas, pour qu'ensuite, sur le terrain, eh bien, on voit que l'équipe évolue. Je prends l'exemple du PSG, tu en parlais tout à l'heure. Le PSG, il y a quelques années, résonnait star. Oui. Et n'a jamais gagné la Ligue des Champions, malgré le nombre de stars qu'il y avait sur la pelouse. Quand il y avait les trois fantastiques, Neymar, Messi et Mbappé, ben, malheureusement, en Ligue des Champions, ça ne passait pas. Parce que justement, à l'intérieur de cette équipe, ben, il y avait des grades, et puis il y avait comme des fonctions qui n'étaient pas requises pour tout le monde.
Mais donc, alors, par exemple, toi, Pascal, quand tu étais à l'ETG, par exemple, qui est l'équipe d'abord avec laquelle tu es allé en finale de Coupe de France, par exemple.
Bah, ça part de loin. C'est un club que nous avons construit avec quelques amis. Nous sommes partis d'un bas niveau et puis on a franchi des échelons, mais toujours avec la même philosophie. C'est-à-dire toujours que l'individu serve l'équipe, que l'individu serve le collectif. Mais ceci, c'était pas que sur le terrain, en dehors également.
Et comment le faire?
Donc on parlait tous à l'unisson. Ben, aux joueurs, en fait, à partir du moment où tu leur donnes et tu leur dis quel est le projet du club, quel est son ADN, à partir du moment où tu dis que rien n'est plus fort que le collectif, bien, déjà tu les préviens. Et puis ensuite, faut les traiter tous de la même manière. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que le joueur qui joue peu, tu dois lui vouer de la considération autant que celui qui te marque tous les buts. Et ça, c'est tous les jours. C'est toutes les minutes. À chaque fois que tu lui serres la main, à chaque fois que tu lui regardes, à chaque fois que tu interviens auprès du groupe, tu te dois de souligner son implication, même s'il ne joue pas. Je me souviens à Toulouse, par exemple. À Toulouse, j'avais 36 joueurs à coacher alors que l'équipe était dernière. À la fin de la saison, quand le club s'est maintenu après ces 10 matchs fantastiques, il y avait 8 joueurs que j'avais jamais fait jouer. Et il y en a 5 qui sont venus dans mon bureau pour me dire merci, vous vous êtes super bien comporté avec nous, vous nous avez respecté. Bon, ça c'est quand on te donne quand on te délivre ce message là, c'est quand même un signe fort des joueurs que tu ne fais jamais jouer qui te remercient quand même.
Et vous, parce vous que êtes maintenu,
tu as voué de la considération. On s'est maintenu,
vous
bien
êtes
entendu
dans les missions qui sont impossibles.
les valeurs du collectif, tout d'un coup, là, ont été magnifiées. En arrivant à Toulouse, il est un secret pour personne que certains joueurs, parmi les plus importants, zappaient certaines séances. Venaient pas aux séances vidéo, par exemple. Donc, personne ne leur disait rien. Moi, quand je les ai pris, je leur ai dit, voilà, c'est simple. Tout le monde est logé à la même enseigne. Vous arrivez tous à l'heure. Vous vous comportez tous dans ce cadre qui est très strict, mais suffisamment large pour votre expression individuelle. Vous vous comportez tous de la même manière. Voilà. Et c'était mieux à partir du moment où ce collectif commence à prendre, parce que chacun le sert, en fait, chacun y amène quelque chose, alors là, tu obtiens des résultats à plus forte raison quand tu as des joueurs de talent.
Fred, la construction d'un collectif, là, tout ce qu'a dit Pascal, déjà, est-ce que tu retrouves ce que toi, ce qui t'a permis de fonctionner en équipe?
Pour moi, c'est déjà un architecte. C'est un architecte qui arrive et qui choisit les joueurs qui correspondent à son style de jeu, déjà. L'architecte, c'est évidemment l'entraîneur. Je pense c'est extrêmement important. Je pense que il faut effectivement considérer tout le monde, mais que chacun ait un rôle bien précis. Nous, on a des stars au basket et on a des role players, des joueurs de rôle qui, dans leur rôle, sont considérés. C'est-à-dire qu'en gros, un défenseur chez nous est considéré autant qu'un attaquant parce qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Mais évidemment, dans les moments chauds, on sait auxquels on va donner la balle et etc. Mais moi, je crois qu'il y a aussi une dimension qu'on peut pas maîtriser, qu'on peut pas contrôler, parce que j'ai été dans des très bonnes équipes, très bien construites, qui n'ont pas fonctionné. Et parfois, il se passe un événement en dehors qui ressoude l'équipe et qui crée justement ce collectif. Moi, j'ai l'exemple de Limoges en 2000. En 2000, on a une équipe fantastique. On a dans l'équipe, il y a Yann Bonato et des Ricains super bons et des joueurs français qui sont.
Pour les plus jeunes, Limoges à l'époque, c'était la meilleure équipe d'Europe.
Et donc, on est en 2000. On n'a pas gagné depuis des années, alors qu'on a quand même des budgets. On a quand même chaque fois de très bons joueurs. Et là, d'un seul coup, on nous explique que le club est sur le point de couler et qu'il faut se regrouper, trouver des solutions. Et en fait, ce phénomène a créé ce lien. C'est-à-dire que après chaque match, on allait tous manger ensemble, on discutait toujours ensemble, etc. Ça, tu peux pas le créer. C'est artificiellement, c'est quasiment impossible.
C'est-à-dire que l'épreuve,
soit te soude, soit t'écarte. Et là, ça nous a soudés. En plus, on avait un coach qu'on détestait. D'une certaine manière, en fait, c'était quelqu'un qui aimait nous faire entraîner comme des fous. Donc forcément, on s'est tous ligués contre lui. Mais en fait, c'est une sorte de
l'union contre le coach.
C'était un manager kamikaze. Ouais. C'est-à-dire que lui, il savait qu'il serait plus là la saison suivante. Il s'est dit, je vais leur faire endurer le pire possible. Et dans l'adversité, une nouvelle fois, ça nous a ressoudés. Donc,
qu'il n'y a pas une recette, en fait.
C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a des circonstances. Mais par contre, ce que tu peux faire, effectivement, tu peux faire comme Pascal a expliqué. C'est-à-dire, être un bon manager. C'est-à-dire, bien gérer ton groupe, le maintenir sous tension. D'autant plus au basket où il y a quand même des changements autant qu'on veut. Donc, forcément, t'as besoin de tout le monde. Et t'as besoin aussi, surtout, de considérer tous les efforts qui sont faits, et pas seulement ceux qui marquent des points, pas seulement ceux qui prennent des rebonds, tout le monde dans son ensemble, dans les pierres qu'ils apportent à l'édifice.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport, sur la construction d'une équipe, comment construire un collectif, c'est surtout ça en fait, c'est la dimension collective, comme arrive à le faire Luis Enrique actuellement depuis 2 ans. Jérôme Pinault, tu as été dans des équipes comme coureur, tu as été chez Bouygues, tu as été chez YAM, et je pense surtout à l'équipe Quickstep, qui est une des grosses équipes du plateau, notamment sur les classiques, équipe belge avec des stars. Dans le cyclisme, il y a cette dimension plus que dans d'autres sports, peut-être de sacrifice, de carrément courir pour l'autre, et peu importe ton résultat à toi personnellement. Comment on arrive à construire ça et le sacrifice pour l'autre, en fait? Comment tu arrives à construire les Quickstep, on les a longtemps appelés le Wolfpack, c'est les espèces de meutes de loups. Comment on arrive à construire ça, en fait, cette façon de penser?
Je peux pas dire beaucoup mieux que ce que viennent de dire Pascal et Fred, si ce n'est que faut s'aimer, en fait. Faut s'aimer les uns les autres. C'est peut-être un peu romantique ce que je dis, mais
Je pense pas comme toi sur ça.
Moi, je n'aurais pas pu me sacrifier pour quelqu'un qui ne me considérait pas. C'est-à-dire que le mec peut m'insulter, le mec peut ne pas avoir les mêmes opinions que moi, ne pas aimer ma façon de faire, mais en tout cas me respecter. Quand je dis m'aimer, c'est m'aimer dans mon travail. Je prends l'exemple de Mark Cavendish, que vous connaissez tous. Ce groupe, cette équipe qui a été construite autour de lui, ce garçon-là était capable d'être reconnaissant et de considérer tout le monde, de l'équipier bas de gamme, comme je l'étais, qui roulait dans les premiers kilomètres à celui qui allait le lancer dans le sprint, le dernier du lead-out. C'est un garçon qui arrivait à fédérer, qui créait cette espèce de symbiose-là dans le collectif, parce qu'il avait la connaissance parfaite de chacun de ses équipiers. Il savait vraiment qui on était, ce qu'on pouvait faire et ce qu'il pouvait attendre de nous.
Mais c'est quoi, il venait vous parler dans les chambres?
Bien sûr, dans le stage, ça commence en stage.
Il partageait les primes.
Il partageait les primes, tu recevais des cadeaux à la maison que tu n'avais rien demandé.
Ah ouais,
et il venait te voir le soir.
Cavendish.
J'ai eu non, ouais, des beaux bijoux, d'une belle montre, de l'hi-fi pour chez moi. Ouais, il était comme l'était Sylvain Chavanel. Hein, Sylvain, ouais. Pareil, était quelqu'un qui était reconnaissant. Mais au-delà de ça, moi, j'avais pas besoin de cadeaux. Contre, le mec, pour qui je m'étais sacrifié, il fait le podium. Le soir, la première chose qu'il fait après avoir été protocole, c'est de venir te serrer dans les bras et de fêter la victoire une deuxième fois et te dire merci. Ça suffit en fait. Après le reste, évidemment, je suis pas mécontent, mais et ça, il faisait à chaque fois. Et en plus de cela, ce sont des garçons et comme certains directeurs sportifs qui prennent de soin de toi même en dehors, parce que nous la particularité c'est qu'on vit pas ensemble, on va pas au centre d'entraînement tous les jours. On peut être 15 jours, 3 semaines, un mois sans se voir. Je sais que je vous donne un exemple très 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 simple. En 2012-13, j'étais avec Marc sur le Giro, j'étais pas prévu sur le Tour. On fait un Giro exceptionnel, on gagne 6 étapes sur le Giro. 5 pour Marc et une pour Matteo Trentin. J'ai roulé tout le Giro à partir de
pour
la
les autres,
pour lui,
pour lui.
Dès les premiers kilomètres.
C'est fou ça.
On a même des étapes où à la fin, lui pensait qu'il pouvait gagner, le directeur sportif était pas sûr. Il y avait un équipier qui avait été mal 2 jours avant dans la victoire de Marc, qui avait servi à rien. Pour lui, on y est retourné et on a regagné. On est retourné au charbon, il y avait même deux grosses difficultés, on a gagné. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'après, entre le Giro où Marc est allé voir la direction, disons, Jérôme va venir autour, parce que cette équipe-là, il est né quelque chose. Pendant un mois, il m'a cassé les bonbons pour savoir comment je m'entraînais.
Ah oui, mais c'est vrai, il était derrière toi.
Mais aussi appelé quasiment tous les jours. Un WhatsApp, un message, comment ça va ? Tu te sens comment ? T'as récupéré ? Tu fais quoi ? Et on a même fait un mini stage entre nous autour d'une course un peu qu'on ne connaît plus aujourd'hui qui s'appelle le Ster Electro Tour qui était aux Pays-Bas. Il a fait venir l'équipe. On a passé 2 jours à s'entraîner aux Pays-Bas, mais c'était pas le problème de l'entraînement. C'était pour être ensemble, pas perdre le fil.
Ça, comme si c'était à Marbella, par exemple.
Mais alors, on n'est pas à Marbella, tu vois, on est allé
à Rotterdam. C'est toi qui as donné l'idée.
Pour le coup, c'est intéressant. Ce que toi tu dis, en gros, c'est que pour toi, en tout cas, dans ton expérience, c'est que dans la construction d'une équipe, il y a eu un leader qui fédérait de par son attitude, de par ses résultats aussi. Hein,
parce oui, que parce si tu que gagnes pas. En vélo, l'entraîneur, en fait, en vélo, le directeur sportif, il n'est pas présent au quotidien. On change de directeur sportif.
C'est pas le manager Patrick Lefebvre qui te dit, écoute, Jérôme, cette année, tu roules pour Marc. C'est comme ça.
Alors, évidemment, c'est lui qui le dit. Mais Marc, c'est entretenir ça. Je veux dire, je l'ai pas fait pour d'autres. Ou moins, avec moins d'intensité, parce que c'était pas la même chose. Et pendant cette période-là, je pense que entre ce groupe-là, avec un leader qui gagnait tout, et la merveilleuse époque de la boulangère, où là, il y avait pas de tête d'affiche, et ça gagnait tous les week-ends parce qu'on était tous très copains. Et là, pour le coup, quand je parle de copains, c'est vraiment copains. C'est les deux plus belles périodes.
Entre
il y avait la fraternité entre
coureurs. Moi, j'ai pas ça, moi.
Alors, justement.
Mais c'est deux époques différentes et deux sentiments différents.
Hein. On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport sur la construction d'une équipe, d'un collectif. Le mot copain me paraît déterminant. Est-ce que, pour faire un grand collectif, il faut forcément des potes?
Pas du tout. Pas du tout. Non. Honnêtement, il faut un leader charismatique qui t'amène dans une direction et où tu sais où aller. Et il faut respecter tes coéquipiers. C'est-à-dire que le respect pour moi est capital. Oui. Effectivement, savoir. Moi, j'ai un exemple très concret. Une nouvelle fois, j'ai fait les Jeux Olympiques avec deux joueurs que sont Antoine Rigaudot, par exemple. Et Laurent Sierra. Donc deux énormes caractères de gros chieurs à l'époque.
Et Fred Weiss.
Non, moi je venais d'arriver, j'avais 5 ans, j'étais le gamin un petit peu. Et franchement, je les aimais pas. Je les aimais pas du tout. Par contre, j'avais à 2000% confiance en leur capacité à nous amener loin et 2000% de confiance en leur capacité à très bien jouer au basket et à m'indiquer le bon chemin pour y aller. Mais j'ai pas besoin d'être copain avec eux.
Ils étaient en tout point respectables.
Ils étaient en tout point respectables. Mais, ouais. Et on les respectait.
C'était pas tes amis, mais te respectaient.
Bon, voilà. Exactement. C'est pour ça que j'avais dit, j'ai parlé de respect au départ, parce que le respect pour moi, c'est le plus important. D'ailleurs, on est devenus très potes depuis qu'on a arrêté, parce qu'on a plus envie de se taper. Juste pour terminer l'exemple, pour la préparation des Jeux Olympiques, on a failli se taper sur le terrain pendant qu'on jouait, contre, contre l'Australie avec Laurent Sierra, quand même.
C'est vrai.
On s'est arrêté au milieu, il a mis le ballon sous le bras comme il allait le faire. Et moi, j'étais à deux doigts de lui en mettre une. Ouais. Pour vous dire à quel point l'ambiance n'était pas super copain-copain. Et on fait une médaille d'argent quand même.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai vécu l'époque Cavendish, pas tous copains, mais ça travaillait et ça s'entendait bien pour gagner. Et j'ai vécu par contre des moments formidables avec l'équipe Brioche la Boulangère, où là, c'était que des copains.
Non, mais c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'obligation. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas d'obligation. C'est évidemment mieux quand c'est tes potes et que tu peux sortir, etc. C'est très sympa.
Mais c'est pas une obligation. C'est le même sentiment parce que maintenant, ça fait 20 ans, presque 30. Tu me demandes la meilleure des périodes, c'est quand j'ai gagné avec mes potes.
Ouais, mais là on parle de résultats, quand tu parles de résultats, il y a pas d'obligation à être pote. Mais effectivement, si tu me demandes quelle est ma meilleure période, c'est en 2000. Pour moi, c'était pas des coéquipiers, c'était des frères. Donc évidemment, c'est mieux.
Mais par contre, on peut dire qu'en règle générale, ouais, quand ça ne marche pas, c'est quand les joueurs ou le staff ou l'ensemble du club ne respectent pas des codes, ne sont pas alignés. Quand tu as, par exemple, quand tu perds un ballon au foot, il faut que tout le monde court pour les récupérer. Et quand tu t'aperçois sur le terrain que certains font pas les efforts, à partir de là, donc ça part en sucette. Ouais. Bon, on commence à montrer du doigt les garçons qui ne font pas les efforts et après c'est ingérable. En fait, c'est la meilleure manière pour pas avoir de résultats quand il y a des dysfonctionnements à tous les étages d'un club.
Simon,
exemple OM.
La narration du sport, c'est ça qui est marrant dans ce thème, c'est que la grande narration du sport, elle retient les stars, elle retient les légendes du sport, et quand tu écoute les stars et les légendes du sport, ils insistent toujours sur le rôle de l'équipe et ils t'expliquent que sans l'équipe, eux, ils pourraient pas surnager.
Sans Scottie Pippen, Jordan.
Justement, c'est marrant que tu parles de Michael Jordan. Je crois qu'il avait dit un truc du genre le talent te fait gagner des matchs, mais c'est l'équipe qui te fait gagner des titres. Et tu regardes que en fait, les stars n'émergent que parce que t'as une équipe. Pep Guardiola, lorsqu'il commence sa mission au Barça, premier truc qu'il fait, il vide Ronaldinho et Deco du vestiaire, qui étaient des immenses joueurs. Il met Busquets et Iniesta, on dit mais qu'est-ce qu'il fait, il est fou. Et il te crée la plus belle équipe en termes de jeu et la plus grande star de l'histoire du foot avec un Lionel Messi qui émerge. Et si on veut faire court, en fait, si on veut résumer à quel point l'équipe qui est moins fléchie au niveau de la narration et du grand public est fondamentale, c'est le film Moneyball. Le stratège, tu sais, où Billy Bean, le manager de Oakland, une avec équipe Brad de baseball, Pitt, est incarné par Brad Pitt. Et en gros, ils n'ont pas les moyens de recruter des stars. Les quelques pseudo-stars qu'ils ont, ils les vident au profit de joueurs. Et c'est étudié par des statistiques qui sont un petit peu moyens partout, mais qui, connectés ensemble, le pensent-ils, peuvent gagner. Et ils font une série de victoires absolument ahurissantes. Et la stratégie de Moneyball, elle a été reprise par des clubs au plus gros moyen. En fait, ce Billy Bean, les Boston Red Sox, qui gagnent plus depuis des décennies, lui font un pont d'or. Il choisit de ne pas y aller. Mais les Red Sox ont appliqué ces méthodes. Et avec des moyens, ils ont gagné 4 ou 5 fois les World Series.
Mais de plus en plus en NBA, juste pour revenir un petit peu à la construction d'une équipe, de plus en plus en NBA, avant de drafter, avant de prendre des joueurs, il y a des entretiens avec les coachs pour savoir qui ils sont.
Et ça, c'est de plus en plus dans tous les sports.
Je parle du sport que je maîtrise de mieux, et je trouve que c'est extrêmement important parce que il faut connaître la personnalité aussi pour voir s'il cadre avec les objectifs du club.
Et juste un dernier mot avant de fermer la porte du vestiaire, puisque justement tu parlais de l'OM, Pascal, l'OM qui est parti en stage. Est-ce que en fait, ça se provoque de devenir une équipe, c'est-à-dire de
ça se construit.
On va tous aller au restaurant ensemble, tous partir en stage à Marbella, on va partir à, c'est-à-dire est-ce que ça, ce sont les artifices pour
ça,
vous
ça marche pas à tous les
ce
coups
sont les artifices mais, ou mais, est-ce que ça peut vraiment marcher
et ça marche pas à tous les coups évidemment, mais par contre ça peut contribuer oui à la création d'une équipe.
Si tu crées du lien, c'est que tu as un nouveau groupe en général et les stages de prépa et d'avant-saison sont faits pour ça. Quand tu mets en place un stage pour créer du lien.
Mais tu sais, le fameux stage commando, on va passer une nuit ensemble dans la forêt.
Oui, mais ça marche bien. En préparation,
tu as le sanglier, on
sera équipe. Après, arriver à un certain moment, si on prend l'exemple de l'OM, mais ça peut être l'exemple de beaucoup d'équipes aussi. Si tu pars en stage en juin avec ton équipe, ton 8 pour faire le tour, mais que les mecs, avant de ça, ils se connaissent pas, ils ont pas appris à courir ensemble et ils s'apprécient à peine, c'est trop tard. C'est trop tard. Comme
nous, on le faisait, on l'a fait à Malaga sur une fin de saison et on est allé dans un golf. On est allé dans un golf. On a foutu tellement le dawa que ça resserrait les gros le groupe parce qu'on s'est fait virer de l'hôtel. Et je me dis qu'après, c'était une vraie bonne ambiance.
L'équipe de basket.
L'équipe de basket qui arrivait sur un green de golf avec les voitures.
Le mot de la fin, Pascal.
Par exemple, moi, à l'ETG, parce que, en fait, j'étais en position forte, on va dire. À l'ETG, chaque fois qu'on organisait un stage en début de saison, un stage de pré-saison, je disais aux joueurs, vous êtes 10 jours en stage, vous travaillez conséquemment 2 à 3 fois par jour, et le soir, il n'y a pas de couvre-feu. Vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous soyez le lendemain matin tous présents à l'entraînement et que surtout, j'ai pas de plainte à déplorer.
Ouais. Voilà. Et est-ce qu'ils étaient tous les matins à l'entraînement, alors?
Bah, tous les matins à l'entraînement, et puis ils allaient boire un coup, souvent c'est dans des endroits sympas, ils allaient boire un coup, et puis aller à 11h30, minuit, ils étaient tous rentrés.
Peu importe les endroits, parce que je vais te dire, moi, j'ai fait des stages organisés par les équipes précédentes, et même par la dernière que j'ai faite, dans un palace à Kstatt avec Yam, il n'y avait pas une ambiance. Le plus beau stage de prépa que j'ai fait, je pourrais pas raconter les détails, parce que c'était...
Mon imagine,
c'était avec Marc Cavendish dans un camp militaire en Slovaquie.
Quoi ?
Je veux dire, il y a plus sexy. Hein. Mais alors, on a des souvenirs, mon pauvre. Ah ouais, on va pas tout raconter. Là, on a rigolé.
Dans un camp militaire, quoi ? Vous êtes
exactement
la boue.
On a
tout.
Fait un bout de camp dans un camp militaire. Ouais. Sauf que quand t'as envie de faire de créer du lien et de faire le con, tu trouves toujours. Et je peux te dire que avec des Stibars, des Tony Martin, des Marquez, des gros caractères, on sait. On a un sourire. À chaque fois qu'on se recroise, on dit, tu te rappelles le stage en Slovaquie?
Bien sûr. Après, Marc Magnou nous a déjà dit que certains stages en altitude, en équipe, par exemple, c'était pas toujours une bonne idée parce qu'effectivement, les mecs sortaient un peu plus qu'ils ne s'entraînaient
pas. Là, au TID, ils sont pas prêts de sortir, où ils vont.
Au volcan, effectivement, à Tenerife, il n'y a pas grand chose à faire autour. Allez, on referme la porte du vestiaire.